renouvelables,
des applications,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains, démocratie, respect de la
vie, politique internationale, biodiversité,
pollution, paix. Parce que l'environnement, c'est important. Cette semaine, d'abord, comme toujours, une revue de l'actualité où on vous parle, entre autres, de ce qui s'est passé chez nous, mais aussi, bien sûr, partout autour de la planète. Alors, comment passer à côté? C'est le 20e anniversaire de la pire tragédie industrielle de l'histoire, et j'ai nommé Bhopal en Inde, qui encore aujourd'hui continue de faire des victimes. Sur une note plus positive, bien sûr, on va commenter le plan de développement durable qu'a rendu public la semaine dernière le ministre de l'Environnement du Québec, M. Thomas Mulcair. Question d'aller vraiment au fond des choses, on a demandé l'avis de M. André Boutillier, président de la coalition Au Secours. Et on parle aussi d'OGM, d'énergie, de déchets nucléaires, d'extinction d'espèces animales et de plein d'autres choses. Le dossier de la semaine cette semaine, l'éducation relative à l'environnement. À cet effet, on a le plaisir de recevoir M. Robert Lizer, président de l'ACUPER. Et on termine bien sûr par nos classiques coup de cœur, coup de masse et au calendrier cette semaine. Bienvenue tout le monde à Derrière Environnemental, le magazine d'information en environnement. Derrière Environnemental, bien sûr, c'est une émission de radio, mais c'est également un site internet et une cyberlettre à laquelle vous pouvez vous inscrire afin d'avoir toutes nos nouvelles de la semaine. L'adresse pour aller sur le site internet, c'est le www.radiodelirium.net. Sofiane Legendre au micro en compagnie d'une équipe magique cette semaine composée de Patrick Bonnet et Hugo Lachapelle. J'espère que vous allez aussi bien que moi, messieurs.
Faites le feu.
Il n'y a pas à dire.
Oh, attention, peut-être que ça émet des gaz à effet de serre, cela.
Du feu. En effet, le méthane est un gaz à effet de serre 21 fois plus puissant que le CO2.
Vous voyez, j'en avais l'intuition. Merci. Grosse semaine en environnement pour plusieurs raisons. J'en ai nommé quelques-unes juste un peu plus tôt. Entre autres, comment passer à côté? Il faut qu'on en parle. Il y a un avant-projet de loi qui a été remis qui a fait jaser tout le monde. Les médias, vraiment, en ont parlé énormément. J'étais absolument surprise de voir tout ça. Donc, l'avant-projet de loi sur le développement durable de M. Thomas Mulcair, oui, lui-même, qui est sous la bannière du Parti libéral. Quand même assez impressionnant compte tenu de toutes les décisions qu'ils ont prises à volo jusqu'à aujourd'hui. Patrick Bonnet, tu nous décris un peu cet avant-projet de loi en deux mots.
En deux mots, je vous le décris avant-projet de loi. Donc, c'est pas encore un projet de loi, c'est un avant-projet de loi. C'est très louable comme intention. Il n'y a pas à dire c'est beau des intentions, mais on veut voir des actions éventuelles et de la façon que c'est constitué présentement, les différentes échéances qui vont aller pour nous amener éventuellement une stratégie véritable au Québec, ben on l'aura probablement pas avant 2007, cette stratégie-là. Je vous résume un petit peu ce qui se passe. En fait, il y a eu un dépôt d'un avant-projet de loi. Le ministre de l'Environnement va faire une tournée à travers le Québec, du moins il est censé faire, c'est ce qu'il nous a dit, pour consulter justement la population sur cet avant-projet de loi. Une fois que ça va être fait, eh bien, il va retravailler son papier, nous sortir un projet de loi cette fois-là. Ce projet ira en commission parlementaire. Nos parlementaires vont en parler, vont encore une fois rencontrer des gens et suite à ça, un an plus tard, en fait, il va avoir un an suite à l'adoption de cette loi pour avoir une vraie stratégie de développement durable au Québec. Eh bien, un petit problème, en fait, c'est très intéressant puis on en parle comme ça parce que déjà à première vue, il y a des critiques qui ont émané et c'est important d'en parler. Première critique, c'est que ce plan de développement durable-là qu'on a, l'avant-projet, eh bien, c'est pas mal beaucoup, énormément, en fait, simplement organisé alentour du gouvernement. Donc, l'administration du gouvernement ne touche pas du tout tout ce qui est entreprise privée, tout ce qui est subvention. D'ailleurs, déjà la semaine passée, au sein du Conseil des ministres, on sentait qu'il y avait de la chicane. M. Mulcair qui disait, justement, le gouvernement va arrêter, ça va être la fin des subventions aux entreprises polluantes. Et M. Michel Audet, qui est le ministre du Développement économique et régional, ainsi que la recherche, disait complètement le contraire. Lui disait, écoutez, pas question qu'on coupe les subventions aux entreprises polluantes. Donc, vous voyez déjà que M. Mulcair qui va être le porteur, M. Mulcair qui est ministre de l'Environnement, va être le porteur de ce dossier-là, va rencontrer énormément de barrières sur son chemin, va avoir besoin de l'appui de tous et chacun, et même ceux qui sont contre les libéraux, mais pour l'environnement, je vous invite à l'appuyer là-dedans. Peut-être juste vous résumer en trois points les grosses choses qu'on retrouve à l'intérieur de ça. Une commissaire en environnement, plutôt au développement durable au Québec, devrait arriver. Cette commissaire-là va faire partie de la vérificatrice du bureau de la vérificatrice générale du Québec, qui elle relève de l'Assemblée nationale. nationale, on va avoir un fonds vert qui va être dédié justement à l'application de ce plan-là. Fonds vert pour financer entre autres des organismes en environnement. Je vous rappelle qu'on a coupé 16 ou environ 15 millions l'année passée dans le budget du ministère de l'Environnement et qu'on a coupé tous ces organismes-là qui font du travail de terrain. Donc, le fonds pourrait assurer d'amener de l'argent à ces organismes-là. Problème avec le fonds vert, c'est que le fonds consolidé de l'État pourrait piger dans ce fonds-là si jamais il y a des surplus. Donc, si on fait trop d'argent avec l'environnement, ben on va remettre ça un petit peu à gauche, à droite.
On pourrait pas faire ça.
Ben ouais, en effet, c'est un petit peu problématique. Et peut-être, dernier point par rapport à ce plan vert-là, eh bien écoutez, on en parle beaucoup, c'est d'intégrer au sein même de la Charte des droits et libertés un droit à un environnement sain. C'est beau. L'affaire qui arrive, c'est que ça existe déjà, ce droit à un environnement sain. Là, c'est dans la loi sur la qualité de l'environnement au Québec, on dit toute personne a droit à la qualité de l'environnement. Donc, ça paraît bien, les médias l'ont récupéré, ça va se parler de plus en plus, mais ça existait déjà plus ou moins dans un certain sens, sauf qu'il n'y a pas le nom charte des droits
associés. Oui, parce que c'est ça, la charte des droits et libertés de la personne ont quand même préséance sur les différentes lois. Donc, dans ce sens-là, ça l'amène à un niveau peut-être plus élevé, juste au niveau symbolique dans comment on se le représente. Merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ça.
Je pense qu'il y aurait lieu de douter avec cette loi-là en voyant que ça va seulement s'appliquer. En voyant que ça va seulement s'appliquer au gouvernement du Québec et non aux entreprises, il y aurait lieu de douter que ce soit un outil pour favoriser les partenariats publics-privés, en fait.
Bien, si vous permettez, je vais laisser passer mon commentaire parce que ça va très vite. Je vais partager avec vous, j'en parlais un peu plus tôt aujourd'hui avec M. André Boutier, président de la Coalition Au Secours, qui justement soulève cette question des projets de loi sur les PPP qui devraient être adoptés pour l'une avant Noël, pour l'autre, pour l'un avant Noël puisque c'est des avant-projets de loi, et pour l'autre en février. Donc, tout de suite, si vous voulez bien, André Boutier commente cet avant-projet de loi sur le développement durable.
Monsieur André Boutier, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Donc, on voulait simplement avoir votre avis sur ce plan de développement durable de Monsieur Thomas Mulcair, ministre de l'Environnement au Québec.
Oui. Je m'excuse parce que je pourrais rire beaucoup, beaucoup à une question comme ça, mais je vais être très sérieux parce qu'il a présenté son plan de développement durable de façon très sérieuse. Alors, allons-y en disant que quelqu'un qui présente un plan vert mur à mur, qui a dit qu'il acceptait la politique nationale de l'eau et qui fait rien pour appliquer la politique nationale de l'eau, comment pourrait-on prendre au sérieux ce qu'il nous propose? Maintenant, si on me dit, vous l'avez bien entendu, vous avez bien entendu quelque chose, oui, je l'ai même lu. Et écoutez, nul peut être contre la vertu, c'est vraiment incroyable, c'est parfait, il ne manque rien. Et c'est là que ça m'intrigue. Quand un parti veut privatiser la gestion de l'eau, au même moment où il nous présente un plan comme ça, j'ai de la difficulté à y croire. Alors, sur le plan technique, rien à dire, il a fait ses devoirs, tout est beau. Mais quand un ministre accepte une coupure de finances dans son ministère de 14 millions, comment va-t-il faire pour appliquer tout ça? Et je finis en disant que ce jovialisme-là environnemental est autant plus drôle qu'aucun des échéances de toute l'application de son plan ne peut se réaliser avant les prochaines élections. Aïe, 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 que c'est bizarre et que ça tombe bien.
Ça sent la mesure populiste.
Admettons qu'on a à se faire oublier pour certaines choses qu'on a fait et on voudrait faire dire aux gens, ben, écoutez, regardez, sur le côté de l'environnement, ils sont quand même bons, là.
Donc, exactement dans ce sens-là, qu'est-ce que les citoyens devraient garder à l'œil pour éviter tout glissement?
Ben, pour commencer, il faut que les citoyens ne perdent pas de vue que ce gouvernement est à peu près passé, et ça va se faire d'ici à Noël, là, l'acceptation par tout le monde, va obliger tout le monde à accepter une agence de partenariat public-privé. Et après ça, il y a un projet de loi 62 qui va arriver en février, où là, on va vraiment aller dans le détail de comment les villes vont pouvoir privatiser la gestion de l'eau avec des contrats sur 25 ans, et en même temps, une possibilité de tarification sur 25 ans pour payer tout ça. Alors, dans le domaine de l'eau, c'est ça. Dans les autres domaines, il y a des groupes environnementaux plus spécialisés dans le domaine de l'air, des déchets, qui vont pouvoir passer des commentaires. Mais dans le domaine de l'eau, c'est ça qui est à regarder. Et pour s'assurer que la population comprenne bien, nous, au Secours, on organise le 6 décembre une soirée à l'UQAM, l'entrée est libre, où on va expliquer aux gens tous les effets possibles de ces deux projets de loi-là, 61 et 62. Dans le cadre, évidemment, du plan de développement durable, mais qui sont des vœux pieux, on va plutôt parler des lois qui sont là, là, devant nous, après être adoptées, qui vont changer la face de la gestion de l'eau au Québec.
Mais est-ce que ce plan de développement durable, justement, va pas du tout dans à l'encontre de ces projets de loi, donc 61 et 62? Est-ce que ça nous aurait pas permis, ou est-ce que ça va pas plutôt nous permettre de nous en prémunir?
Ben écoutez, il faut attendre ce que le ministre va dire. Il annonce un plan en novembre 2004. Il dit qu'il va consulter toute l'année et qu'en novembre 2005, il va déposer un projet de loi à l'Assemblée nationale. Après ça, il va avoir une commission parlementaire qui va être sûrement en novembre ou décembre ou janvier 2006. Et après la commission parlementaire, ils vont adopter la loi de développement durable pour, après ça, un coup qu'il a le mandat, d'obliger chacun des ministères du Québec à se faire un plan. Et là, chaque ministère va avoir un an pour faire le plan. Et on est rendu aux élections.
Donc, je pourrais en retenir que c'est votre principale crainte concernant ce plan de développement durable.
Ben, il n'y aura rien, complètement rien. Et pendant ce temps-là, il n'arrêtera pas la machine qui fait avancer les dossiers du projet de loi 61, qui est la création d'une agence de partenariat public-privé, et la 62, qui est le droit que les villes auront maintenant de privatiser la gestion de l'eau, qui les MRC pourront gérer les rivières, parce qu'il y a ça dedans aussi, et que les villes pourront construire des petits barrages privés sous les chutes.
Monsieur André Boutillier, merci beaucoup.
Yo, pas de farce là, pas de 4x4 dans 5x4. Hey, toi, dans ton gros SUV.
Dans ton suburban, t'es pas urban.
T'as-tu parlé de poule? C'est toi qui crée une poule.
Dans ton suburban, t'es pas urban.
Hey, yo, combien de millages tu fais au galon? Dans ton camion, t'as George Bush à s'acheter des canons. Tu nous emmerdes avec tes émissions, des particules en suspension. Hey, champion, pensons un peu aux autres générations.
Hey, yo, t'as payé une maladie dans les poumons. Ta femme est stressée dans un bouchon. Ton fils s'est fait attraper par un soulon dans un Yukon. Toi, t'es plus gros que mon salon, gâteau vachon.
Alors, comment ça se passe sur les routes là ce soir?
Eh bien, oui, Jules. Même si le prix de l'essence a monté, nos autoroutes restent bloquées.
C'est quoi tu veux là? Bâtir des ponts? Des autoroutes en tronçon? T'es con, c'est pas une solution.
Le gouvernement ne donne pas d'option.
Restons.
Et aujourd'hui, des secteurs à plus, c'est appelé du trafic induit.
Fait que j'espère qu'on serait clair avec tous les propriétaires. C'est vous qui polluez la terre avec vos gaz à effet de serre.
Dans ton suburban, t'es pas urban.
Laisse ton camion à la maison, mon frère.
Dans ton suburban, t'es pas urban.
T'as pas de bon sens, faut en parler au maire.
Dans ton suburban, t'es pas urban.
Laisse ton camion à la maison.
De retour à Delirium environnemental, le magazine d'information en environnement. Je vous rappelle que juste avant d'aller en musique, on a entendu M. André Boutillier, président d'Eau Secours. D'ailleurs, comme il le disait très bien tout à l'heure, il y a un événement qui va se tenir lundi le 6 décembre à 19h à la salle Marie-Gérin-Lajoie à l'Université du Québec à Montréal. Cet événement-là, donc, est gratuit. Vous pouvez y assister. C'est vraiment pour vous expliquer la teneur et les conséquences de ces deux projets de loi-là, soit le projet de loi 61 et 61. 62 qui sont des avant-projets de loi qui devraient être adoptés d'ici Noël et juste un peu après Noël. Je vous inviterai aussi à aller voir sur le site d'Eau Secours, la Coalition pour une gestion responsable de l'eau au Québec, entre autres parce qu'il y a un texte très intéressant qui se trouve dans la section Expresso. C'est le titre, c'est le rapport Brundtland intercepté et déformé. C'est justement une critique, un éditorial critique au sujet de l'avant-projet de loi, le plan sur le développement durable de M. Thomas Mulcair. Finalement, sur notre site Internet à nous, il y aura le rapport qui a été fait par une équipe de droit de l'environnement et des ressources naturelles, et donc qui est aussi une critique, mais des aspects légaux du futur plan de développement durable. Donc, toutes les informations, allez voir sur notre site Internet, vous pourrez avoir accès à tout ça au www.radiodelirium.net. Ben, c'est la semaine des tristes anniversaires. Vous savez, je viens de vous nommer une date qui, moi, me fait toujours un gros pincement au cœur, le 6 décembre 2004. On se souvient qu'un 6 décembre, il y a un homme qui est rentré avec un fusil dans une école qui s'appelle la Polytechnique et qui a tué 14 femmes pour le simple fait que c'était des femmes. Je sais que ça n'a pas rapport à l'environnement, mais je trouve ça toujours important de prendre l'occasion de le souligner à chaque année. C'est la preuve que ces problèmes-là ne sont pas réglés. Un autre événement qui s'est produit au début du mois de décembre et qui est absolument triste et aberrant, c'est un gros accident industriel qui a eu lieu en Inde, à Bhopal plus précisément, en 1984. En fait, ça s'est produit dans la nuit du 3 décembre. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un des grands événements déclencheurs d'une certaine conscience écologique qui a d'ailleurs précédé le rapport Brundtland qui, lui, était publié suite aux travaux de la Commission sur l'environnement et le développement durable, était donc publié en 1987. Donc, c'est quoi Bhopal? Vous allez beaucoup en entendre probablement parler ces jours-ci. Bhopal, mais en fait, c'est une usine de pesticides qui appartenait à Union Carbide. Union Carbide, maintenant, n'existe plus parce qu'ils ont fusionné avec Dow Chemical. Dow Chemical a donc racheté Union Carbide, qui produisait donc des pesticides dans la ville de Bhopal. La nuit du 3 décembre, donc, une explosion se produit. À ce moment-là, il y a 40 tonnes de produits toxiques. Je vous en nomme quelques-uns parce que ça ne va rien vous dire, mais ça va peut-être vous dire quelque chose aussi. L'isocyanate de méthyle, du cyanure hydrogéné, d'amide monométhyle et plein d'autres gaz mortels, donc, ont été libérés dans l'environnement. Ces jours-ci, Amnesty International, vous savez, cette organisation qui travaille pour les droits de l'homme, a publié un rapport qui est fort intéressant, auquel vous pourrez avoir accès par l'intermédiaire de notre site Internet, et qui nous dit que, suite à cet événement-là, quand ça s'est produit le 3 décembre, il y a entre 7000 et 10000 personnes qui sont mortes dans les jours qui ont suivi, donc, puis que maintenant, c'est environ 20000 personnes qui ont, à partir jusqu'en 2004, donc pendant ces 20 ans-là, il y a environ 20000 personnes qui ont perdu la vie, et 100000 autres qui souffrent de maladies chronique. Il y a beaucoup de déformations congénitales chez les enfants. Je lisais entre autres des déformations des enfants qui ne laissaient pas de palais, beaucoup de leucémie, de cancer, etc. Toute la nappe phréatique de cette région-là est encore contaminée à ce jour. Donc, c'est un événement qui est vraiment dramatique. Puis, le site n'a jamais été décontaminé, donc ça continue d'être problème parce que toxique. Et puis, la compagnie refuse de reconnaître sa responsabilité parce qu'elle a été rachetée par une autre compagnie. Donc, moi, je vous inviterai à aller voir sur le site d'Amnesty International parce que Amnesty International fait une campagne d'envoi de lettres au président de Dow Chemical, qui est maintenant propriétaire de Union Carbide, et donc pour appeler la population à se mobiliser à ce sujet-là.
Juste rajouter que souvent, c'est souvent le cas avec les populations les plus démunies qui se retrouvent dans des endroits peut-être moins désirés. Donc, c'était justement un petit peu sous forme de ghetto. C'était beaucoup des gens rassemblés ensemble, moins riches économiquement parlant, qui ont d'ailleurs subi les contre-coups de ça parce que personne d'autre voulait s'installer alentour de cette usine-là.
J'imagine. En tout cas, c'est un peu préoccupant de savoir qu'une usine de pesticides, quelque chose qu'on étend sur les aliments qu'on mange, peut causer autant de problèmes à l'environnement et aux populations, même 20 ans après. Donc, vraiment, je pense que c'est important. C'est important de se commémorer, de se rappeler tout ça parce que ce n'est pas fini et il y a encore plein d'usines de produits chimiques qui n'ont pas de plan d'urgence en cas d'accident. Juste en terminant rapidement, il y a une étude qui est sortie. On sait que la pollution et la santé sont hautement liées. Une étude donc fait le lien entre la pollution et 200 maladies.
Est-ce qu'on avait besoin de ce genre d'études? Eh bien, pas vraiment, mais ça fait juste prouver la chose. L'Université de Californie, en coalition avec le Centre médical de Boston, ont fait une revue de plusieurs centaines d'études qui font justement des liens entre des polluants communs et des maladies. Une variété de maladies assez impressionnante, tu l'as dit, Sofiane. On parle d'au-dessus de 200 maladies. Je vous en nomme quelques-unes, dont l'asthme, atrophie testiculaire, paralysie cérébrale, problème de rein, cœur, blablabla, nommez-en. Eh bien, cette étude étude-là, elle est véridique, c'est simplement pour vous faire prendre compte que plus de 200 maladies existent simplement parce qu'on côtoie des polluants chimiques partout dans notre environnement. On en avait-tu besoin? Ben, allez voir sur notre site web si vous voulez davantage d'informations. Je vous rappelle, toutes nos nouvelles sont sur ce tour.
Il y en a de plus en plus de ces polluants-là.
En plus.
Toujours de l'érium environnemental. Je vous rappelle que les nouvelles desquelles on vous parle et les études qu'on utilise pour vous en parler sont toujours disponibles au www.radiodelirium.net, notre site Internet, endroit auquel vous pouvez aussi vous abonner à la cyberlette. Mon prochain sujet, en espérant que ce soit un peu plus joyeux, mais j'en doute, changement climatique, il paraîtrait que les émissions de gaz à effet de serre ont atteint des records jamais égalés en 2003. Comment ça? Il me semblait qu'on s'était mobilisé autour de l'objectif de Kyoto.
Eh bien oui, on en parle, le protocole de Kyoto, ça fait longtemps qu'on sait qu'il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On dirait qu'au niveau planétaire, c'est pas le cas du tout. Selon une étude du Earth Policy Institute, eh bien en 2003, on a atteint un niveau record de 6,8 milliards de tonnes de carbone rejeté dans l'atmosphère. Vous en déduisez rapidement que trois quarts de ça vient des combustibles fossiles. On parle justement de tout ce qui est charbon, pétrole et gaz naturel. Juste vous rappeler que 35% de la production électrique est justement responsable de ça. En fait, 35% des émissions de gaz à effet de serre viennent de cette production électrique-là. Là-dessus, États-Unis, Chine, Russie, Japon, Inde, Allemagne sont en tête des 10 pays qui produisent environ les deux tiers des émissions. Donc, 10 pays qui produisent environ les deux tiers. Je pense qu'on a à se regarder le nombril ici même au Canada, même si je ne crois pas qu'on soit dans la liste de ces 10 pays-là. On en produit énormément. Fait hallucinant. Écoutez, la moitié de l'augmentation, justement, de ces gaz à effet de serre-là en 2003, c'est la Chine qui est responsable de ça. Donc, on parle beaucoup de la Chine, de l'ampleur qu'elle peut prendre. Eh bien, c'est une réalité. Depuis 1990, ils ont augmenté de 47% leurs émissions de gaz à effet de serre. Et ce n'est pas terminé, mesdames, messieurs. Point positif, là, dedans, par contre, on dit que, ben, regardez, on a la technologie, elle existe, cette technologie-là. Entre autres, on parle d'éoliennes, entre autres, on parle des voitures hybrides qui sont de plus en plus populaires, la construction de résidences qui pourraient changer, entre autres, leurs normes d'isolation. On pourrait le faire au Québec ici, on ne l'a pas encore fait. Ça risque d'arriver sous peu, ou du moins, j'espère que ça va arriver. Et on critique, évidemment, les États là-dedans. On dit que les États manquent de leadership. Et on compare même aux États à différents gouvernements locaux, par exemple, des gouvernements municipaux ou d'États qui, eux, ont mis des actions en œuvre pour justement réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, pendant qu'au niveau étatique, plus élevé, on dort au gaz.
C'est le gars de dire, on dort au gaz. Peut-être juste te rappeler qu'au Canada, chaque citoyen, citoyenne, canadien, canadienne produit 5 tonnes par année de gaz à effet de serre. C'est le moment de s'en rappeler. Au Québec, c'est un petit peu moins, mais quand même, il y a tout lieu de travailler. Et qu'il y a le défi d'une tonne, le gouvernement canadien invite tous les citoyens à essayer de diminuer leur consommation de gaz à effet de serre, ou plutôt leur émission de gaz à effet de serre d'une tonne par citoyen. Allez, relevez le défi. Faites partie de la game. Mais c'est pas tout. Ici, on a des comités de ci et de ça. Au Sénat aussi, ils ont des comités de ci et de ça. Il y a un comité sénatorial sur l'énergie et l'environnement. Tiens donc, c'est rassurant. Ils blâment d'ailleurs le gouvernement canadien.
Ben, tu parlais du défi une tonne. Écoutez, après 3 ans que nous avons justement ratifié le protocole de Kyoto au Canada, eh bien, le défi d'une tonne, comme disait Sofiane, qui veut qu'on diminue de 20% nos émissions de gaz à effet de serre, le Canada a mis de l'argent là-dedans. On parle de 17 millions de dollars pour faire connaître ce programme-là. Et le rapport de, justement, de la Commission permanente du Sénat sur l'énergie, l'environnement et les ressources naturelles, ce qu'elle dit, c'est que aucun grand résultat. 17 millions, ça marche pas du tout.
Ben, t'en faire, moi, une campagne pour 17 millions.
Exactement. Les Canadiens ne se seraient pas encore fait assez expliquer de c'est quoi la relation entre eux, qu'est-ce qu'ils font comme production de gaz à effet de serre et comment doivent-ils diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Je vous invite d'ailleurs à visiter ce site web-là du Défi d'une tonne du Canada. Et c'est eux qui ont l'argent, donc c'est eux qui ont mis en forme ce programme. Si l'argent était redistribué, on aurait quelque chose au Québec. Mais on n'en a pas, fait qu'on n'a pas encore de plan. Sur notre site web, Radio-Derrière, www.ntm.net. Il y a quand même plein de solutions concrètes qui vous permettent justement de participer à ce défi d'une tonne-là. Et dans le rapport, ce qu'on sort également comme conclusion, c'est que, dans le fond, les prix de l'énergie étant si peu élevés au Canada, je vous rappelle que même si on charle contre l'augmentation du prix du pétrole, eh bien, c'est très peu cher, entre autres, comparativement à l'Europe. Et au Québec, l'électricité est très peu chère également. Eh bien, ça fait que les gens en abusent. Donc, ce serait d'augmenter, de fixer un prix qui reflèterait davantage, justement, les coûts reliés, les coûts associés à l'environnement, en fait, les coûts, je dirais, quand on consomme du pétrole, il y a des répercussions quelque part. Je veux juste vous rappeler le déversement de pétrole qu'il y a eu la semaine passée, le plus gros au Canada, au large de Terre-Neuve. Eh bien, on est un petit peu responsable de ça chaque fois qu'on utilise notre automobile. D'autres solutions qu'ils proposent, entre autres, des subventions pour ceux qui vont acheter des véhicules hybrides, entre autres, des véhicules moins énergétiques. Sinon, un moratoire de 5 ans sur la TPS lorsqu'on achète, par exemple, des appareils qui consomment moins d'énergie. Et finalement, de quoi? Des laissez-passer de transport déductible d'impôt. Plus ou moins.
Excellent, bonne nouvelle. On sait ici qu'au Canada, 38% des émissions de gaz à effet de serre sont dues au transport, entre autres. Hugo, ici, il est écrit, parce que c'est comme ça que ça marche, hein, vous savez, on n'invente rien. Le transport en commun, peut-être une gratuité pour tous à venir, mais donne-moi de bonnes nouvelles.
Ben, vous connaissez le cercle vicieux, hein? Moins d'achalandage dans les transports en commun égale moins de revenus pour les compagnies de transport en commun, moins de revenus, dit baisse de services, dit baisse d'achalandage, dit baisse de revenus, le cercle vicieux. Mais en plus de ça, on a une population qui s'achète toujours plus d'auto. Monsieur Richard Bergeron nous l'a clarifié il y a pas longtemps. Et, en plus, vont passer plus de temps sur les routes à cause qu'ils prennent moins de transports en commun et donc il y a plus de congestion, on a besoin de plus de routes et on a moins d'argent pour investir dans les transports en commun. L'impasse, finalement. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on nous propose plusieurs solutions. En fait, il y en a plein qui ont sorti cette semaine. La presse a décidé de lancer l'idée des postes de péage en ville. Il y a toutes sortes d'autres options, hein. Mais en fait, les postes de péage sont en train de gagner un peu d'intérêt. Il y a toute la question de taxer le stationnement au centre-ville, de taxer plus fortement le combustible, d'offrir des déductions, comme Patrick l'a dit, sur les passes de transport, sur les droits de transport en commun. Et il y en a un autre dont je voulais parler, qui était l'augmentation des frais d'immatriculation. Est-ce que c'est vraiment des politiques qui sont gagnantes? Ben en fait, on peut les regarder en se disant, mais ces politiques-là, finalement, ont l'objectif même de réduire le nombre d'usagers d'automobiles dans les prochaines années, et donc de réduire le nombre de revenus créés par ces propres politiques-là. Ça, c'est un problème. Donc, on générait de moins en moins d'argent avec nos politiques. Et puis, il y a tout lieu de se demander. Il n'y a personne qui veut aborder la question de rendre le transport en commun gratuit pour tout le monde, pour tous les citoyens dans une ville, en l'incluant tout simplement aux taxes municipales. Il faudrait pas faire ça, ben non. Mais pourtant, ça serait une politique redistributive où les gens qui utilisent déjà le transport en commun ne se verraient pas payer beaucoup plus et les gens qui en ont les moyens, qui se promènent en voiture à tout lieu, à tout hasard, auraient pas nécessairement beaucoup plus à payer sur des taxes municipales de quelques 2 000 $. Augmenter ça de 20 $, c'est pas dramatique. On paye déjà pour les autobus pour les enfants, on paye déjà pour l'eau du voisin qui arrose son entrée de garage.
Ben c'est pas fou, moi je retiens l'idée, peut-être en terminant, juste rappeler que Londres a appliqué ce payage-là, donc les automobilistes qui veulent rentrer au centre-ville doivent payer l'équivalent de 12 $ pour pouvoir rentrer dans le périmètre du centre-ville, et que le monsieur a été réélu, a été réélu pour un deuxième mandat. Alors ne vous inquiétez pas, les lobbies, il n'y a pas que ça, non? Au retour, on parle de biodiversité et d'Amazonie.